Ordre spirituel aujourd'hui, il sera question d'un éminent trappiste, un cistercien, dont Paul Chautard, qui est mort en 1935, mais qui était extrêmement connu et qui a été extrêmement connu jusqu'à tout récemment pour surtout avoir publié un livre à la fin de ses jours sous le titre de L'âme de tout apostolat. Et L'âme de tout apostolat, croyez-le ou non, s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires en français, mais a été traduit en quantité de langues, et on calcule qu'il s'en est vendu certainement des millions. C'est un des grands, grands best-sellers du 20e siècle, et c'est l'ouvrage d'un abbé, d'un supérieur de monastère trappiste d'une abbaye, l'abbaye de Ceffon en France. Ça s'écrit Sept, S-E-P-T, trait d'union Fond, F-O-N-S, mais ça se prononce l'abbaye de Ceffon. Dont Paul Chautard, son nom, on l'appelle souvent comme ça, mais en fait, c'est Jean-Baptiste Chautard comme moine. Il avait été baptisé Gustave Chautard. Et il est né à Briançon le 12 mars 1858. Et ses parents s'appelaient Auguste Chautard et Clarisse Salle et tenaient une librairie qui s'ouvrait sur la grande rue de Briançon au numéro 60. Et c'était le 12 mars, donc 1858. Un vendredi de la troisième semaine de carême, et la liturgie de ce jour-là parle de la source abondante, c'est assez extraordinaire, la source abondante que Moïse a fait jaillir du rocher dans le désert. Puis aussi, cette journée-là, on parlait de l'eau vive que Jésus, au puits de Jacob, promet, vous savez, à la Samaritaine. Je vous ai déjà fait une émission sur la Samaritaine. Et puis, le lendemain, le samedi, bien, ce petit enfant, futur abbé, trappiste, cistercien de la stricte observance, cet enfant est porté dans cette immense collégiale Notre-Dame, puis reçoit le baptême sous le nom de Gustave, diminutif d'Augustin. Gustave avait été précédé au foyer par une fille, Marie, qui ne vécut que quelques mois, et sa mort avait causé un immense chagrin à ses parents. Ils avaient peur que leur petit Gustave suive la même route. Alors ils se sont hâtés de le placer en nourrice. Et grâce à l'air pur, là, d'une vallée merveilleuse, pas loin de chez eux, puis aux soins quasi maternels d'une très bonne nourrice, bien, cet enfant a acquis une santé florissante. Un gros bébé joufflu qui a été ramené à Briançon au bout d'un an, et bientôt, il n'a pas été seul. Il y a eu une petite sœur, qu'on a appelée Marie encore, en souvenir de l'autre qui était partie, un frère Émile, une autre sœur Lucie, et le petit Gustave s'ouvrait la vie. Et là, je vous raconte ça parce que sa mère était une éducatrice extraordinaire, ça peut intéresser beaucoup les mères. Elle cherche à éveiller la conscience de ses enfants, et particulièrement de son petit Gustave, et à développer sa jeune personnalité. Cette mère exemplaire est une ennemie des contraintes. Ça va faire plaisir, ça, à beaucoup de gens aujourd'hui. Ennemie des contraintes, qui viennent du dehors. Elle préfère aider son enfant à se décider lui-même, et elle cherche déjà à orienter son esprit vers la présence pleine d'amour de Dieu. Ça me rappelle l'éducation qu'on recevait chez moi de mes parents. C'est comme ça. Il n'y avait jamais de disputes, de punitions ou de choses comme ça. Jamais. Un jour, Gustave, je vous donne un exemple. Le petit Gustave s'est laissé tenter par une confiture d'abricot. Et puis, sa figure toute barbouillée, ça montre bien ce qu'il a fait. Et sa mère s'en aperçoit. Elle s'aperçoit qu'il a volé de la confiture d'abricot. Alors, Madame Chautard ne gronde pas son enfant. Elle le conduit devant l'armoire. Elle le prend sur ses genoux et lui dit doucement, Écoutez bien ça, c'est très beau comme éducation. Vois-tu, mon petit, je te fais confiance. Je ne veux rien fermer à clé. Demande toujours quand tu veux quelque chose. Il faut partout agir comme lorsque ta maman est là. Et même si tu ne vois personne, bien le bon Dieu, lui, est là. Il te regarde. Il veille sur toi. Il t'aime encore plus que ton papa et ta maman. Avant même d'avoir 3 ans, Gustave est confié à des religieuses trinitaires, oui, des trinitaires de Valence, qui tiennent une garderie puis une petite école à quelques pas de la maison. Puis, il a toujours été fidèle à l'enseignement qu'il a reçu, ou presque toujours. Heureusement, il avait une famille très unie, son père et sa mère étaient très unis. Alors, il a suivi les cours de l'école de commerce de Marseille, puis il est entré à 19 ans seulement à la trappe d'Aiguebelle. Aiguebelle, c'est une des plus vieilles trappes, un des plus vieux monastères cisterciens de France, dans le sud de la France, au sud de Lyon. Dans la région, disons, de Montélimar, où on fait du nougat, comme ceux qui ont voyagé se souviennent de ça. Et il a été élu en 1897 abbé de la trappe de Chambaran dans le diocèse de Grenoble, qui est pas tellement éloigné. Et 2 ans plus tard, il est élu abbé de la trappe de Ceffon, où il va être abbé très longtemps. C'est dans le diocèse de Moulins, Ceffon. Et pendant son long abbatiat, Don Chautard se dévoue surtout au bien spirituel de son monastère. Avec le souci, parfois très lourd, des intérêts temporels, parce qu'il faut que ça fonctionne, une grande abbaye comme ça, puis il y a eu des moments extrêmement difficiles. C'était l'époque, du gouvernement français, ennemi de toute religion au début du siècle. C'était effrayant ce qu'ils ont dû endurer. Et cet abbé a été solide à travers toutes les épreuves. Il a dû s'occuper aussi d'autres monastères cisterciens de la stricte observance, des trappistes, qui ont été placés sous sa direction ou bien son contrôle. D'ailleurs, comme je vous dis, en 1903, il a été chargé de défendre l'existence de l'ordre cistercien en France. Il a été l'un des chefs de file de la défense des monastères devant la persécution épouvantable. Il a plaidé si bien sa cause devant la commission du Sénat français et devant Clemenceau qu'il s'est fait de cet homme d'État on pourrait dire un ami, en tous les cas certainement quelqu'un qui l'a aidé. Et son influence à Don Chautard, influence surnaturelle, a atteint, en dehors des monastères, comme je vous ai dit au début de l'émission, un très grand nombre d'âmes qui ont gardé un souvenir ému de ce moine, un moine au caractère élevé, à la vitalité puissante, qui était tout rayonnant d'intelligence, de bonté et de grandeur. Il faut voir sa photo. Quel homme solide! Un homme qui porte ce costume avec une fierté, une simplicité, une intelligence. On sent dans cet homme quelque chose d'exceptionnel. Il avait donc cette vitalité puissante. Il était rayonnant d'intelligence, de bonté, de grandeur. Et vous savez qu'il est mort en se rendant à l'office tout subitement. Il a été frappé en pleine activité. Le 29 septembre 1935, en la fête de Saint-Michel, aujourd'hui Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, archange, dont je vous ai parlé en 1995 et j'y reviendrai l'an prochain, car j'ai mis ma vie sous les soins de Saint-Michel quand j'étais jeune. Je suis très attaché à cet archange. Donc, Don Chautard est un homme d'action avant tout. Et il a écrit bien peu pour le public qui s'intéressait surtout à ces moines en bon abbé de monastère. Et c'est par ses entretiens quotidiens à ces moines, ces religieux trappistes, par des allocutions aussi qui n'ont pas été imprimées, et aussi par une énorme correspondance qu'il a agi sur les âmes. Il a eu un rayonnement fabuleux. Ses œuvres imprimées, en dehors de quelques préfaces à des ouvrages, des préfaces dans lesquelles il s'élève sans effort à faire des belles synthèses, bien, ce sont les suivantes. Il y a une abondante série d'articles signés Frères aînés, dont je vous en parlerai tout à l'heure, dans une revue qu'il a suscitée, qui s'appelle Prêtres aux armées, parce qu'il y a eu la guerre 14-18, il fallait donc publier une revue pour ces pauvres prêtres qui portaient des armes. Et Don Chotard veut donc apporter du réconfort à ces prêtres qui sont mobilisés, puis il veut aussi entretenir très haut leur idéal sacerdotal. Il a toujours eu ça à cœur, maintenir très haut l'idéal des prêtres, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, qu'ils ne se sentent pas tout seuls, perdus dans leur sacerdoce, parfois a tendance à s'effriter, la solitude est malsaine pour un prêtre. Et la tâche est tellement dure, pensez à cette vocation exceptionnelle et admirable, et la plus grande des vocations, mais très dure et très difficile. Or, il s'en est beaucoup préoccupé. Il a publié aussi l'esprit de simplicité, caractéristique de Citeaux. Citeaux, c'est l'abbaye centrale de l'ordre des trappistes, des cisterciens de la stricte observance. C'est une simple brochure de 40 pages, mais qui est admirable, publiée en 1928. Ensuite, en troisième lieu, il y a un Saint-Bernard et la fondation des cisterciennes dites trappistines, une autre brochure de 48 pages cette fois. Puis l'âme cistercienne, une conférence qu'il a donnée à la demande de gens qui s'est été publié, 63 pages. Il a assez synthétisé en quelques pages des choses admirables. Il a écrit aussi la règle de Saint-Benoît, illustrée par Saint-Bernard. Ce sont deux articles remarquables. Mais surtout, c'est l'âme de tout apostolat. Ce petit ouvrage, on a dit que c'était mal composé puis mal écrit. Bah, il n'a pas cherché à faire de la littérature. Et Don Chotard était homme à se préoccuper d'une question de forme, d'accord, mais pas tellement. C'est le feu du vrai zèle qui le brûlait au-dedans. Il était brûlé, brûlé, brûlé. Et de fait, son livre est tout enflammé de passion pour Dieu, dont il veut procurer la gloire, hein, en empêchant les prêtres, comme il les appelle souvent, les ouvriers de Dieu, ben de s'égarer. Et c'est une passion pour les âmes de prêtres surtout, qu'il veut pleines de Dieu, afin qu'elles puissent rayonner Dieu. Il faut qu'elles soient pleines de Dieu pour rayonner Dieu, c'est évident, il avait compris ça jusqu'au tréfonds de son être. Et une seule idée domine donc son ouvrage, l'âme de tout apostolat, c'est la nécessité de la vie intérieure. La vie intérieure pour le prêtre voue à l'apostolat, parce que sans vie intérieure, dit-il, il n'y a aucune fécondité, et le prêtre se vide lui-même de Dieu et ne peut le donner aux autres. Alors avec la vie intérieure, le ministère devient fécond pour les fidèles et sanctifiant pour cet ouvrier qui doit être un apôtre. En somme, Don Chotard, ce moine admirable que j'aime beaucoup, eh bien, ce qui le préoccupe, c'est vraiment la sainteté des prêtres et la sainteté d'abord de ses moines. Et il sait bien qu'avec la vie intérieure, le ministère des prêtres séculiers, les prêtres dans le monde, les prêtres de paroisse, devient fécond pour les fidèles, puis sanctifiant pour lui-même. Le sujet, on le voit bien, c'est celui-là même que Saint Bernard, le grand Saint Bernard, l'un des premiers cisterciens. Les cisterciens ont été fondés par Saint Robert de Molème, et quelques années plus tard, Saint Bernard est entré et a aidé à la propagation de cette réforme du grand ordre bénédictin. Alors, le sujet, c'est le même que Saint Bernard a développé à l'adresse du pape Eugène III, dans son étude des Considerationes. Et comme ce grand docteur de l'Église qui est Saint Bernard, eh bien, Don Chautard est soucieux, lui, de ne pas laisser son lecteur parcourir une belle thèse, un beau texte, et puis de l'approuver de façon abstraite dans le fond de son fauteuil. Non, non. Il descend aux applications pratiques, Don Chautard. Il va dans le concret, puis il montre par quel moyen le prêtre va pouvoir garder et développer en lui la vie intérieure. Est-ce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un prêtre nourri d'une grande vie intérieure et qu'on voit sortir de la sacristie pour célébrer l'Eucharistie avec nous, et on sent déjà par sa simple présence et sa façon d'embrasser les saintes reliques à l'autel et sa façon de nous inviter à la prière et sa façon de prier avec nous et sa façon de présider à toute cette célébration la plus grande, la plus belle, la plus noble qui soit sur terre. Est-ce qu'il n'y a rien de plus beau? Alors ce petit volume qui est l'âme de tout apostolat, il passait par bien des phases avant de trouver sa forme définitive. Parce que Don Chautard songe à le perfectionner toujours encore, mais tel qu'il est, il a fait, puis il devrait faire toujours, il me semble, un bien immense. En 1937, il y avait déjà 200 000 exemplaires de vendus. Ça s'est fait très vite. On peut ajouter à ce chiffre les différentes traductions. Et donc, 1937, on peut dire qu'il y avait 250 000 déjà. Mais le succès n'a cessé de s'accroître et de continuer. Il a été traduit dans toutes sortes de langues. Et l'édition française s'est vendue davantage et toujours. Et ça prouve combien juste est la thèse soutenue dans l'âme de tout apostolat. Si Don Chautard a pu avoir un rayonnement pareil, sans recourir, écoutez bien, à aucun artifice, c'est qu'il avait, quoi? Il avait le cœur et l'âme remplis de Dieu. Et que son livre répond à cet éternel besoin des prêtres et de toutes les âmes apostoliques. Donc Chautard a exposé sa doctrine spirituelle, on peut pas dire dans des ouvrages qu'il a publiés lui-même, mais dans les commentaires de la règle en particulier, qu'il donnait chaque jour à ses moines, réunis au chapitre, dans la salle du chapitre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il appuyait surtout dans la règle de Saint-Benoît elle-même, dans les écrits de Saint-Bernard. Il savait utiliser aussi des éléments empruntés à d'autres écoles de spiritualité. C'était donc avant tout la doctrine de Saint-Benoît qui forme le fond de son enseignement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le tout de Dieu, Dieu qui est tout, en face de l'homme qui sait bien qu'il est néant sans Dieu, c'est ça qu'on trouve dans la règle. Dieu, maître souverain, qui a tous les droits et dont on ne se moque pas. Hein. Dieu, Père très aimant, attentif à nos besoins, et qui est un Père qui nous veut attentif à ses appels. Don Chautard insiste à partir de ça sur les conditions requises pour garder le contact avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Mais l'oraison, la vie liturgique, la garde du cœur, le renoncement sous toutes ses formes. Alors nous allons aborder ça. Disons que Don Chautard a été au plus haut point l'homme d'une idée. Toute sa vie, toute sa doctrine peuvent se résumer en deux mots, vie intérieure. Et c'est là son idée mère, si on peut dire. Son idée force, si vous voulez. La nécessité, la fécondité de la vie intérieure est là. Le message providentiel. Oui, providentiel. Que l'abbé de Ceffonds se sent le devoir de transmettre à tous. À tout le monde. Et en particulier à ses moines. Au monastère, cela seul, ou en public, de vive voix ou par écrit dans ses innombrables lettres, l'enseignement du père Chautard est toujours la vie intérieure, la vie intérieure et la vie intérieure. Il rappelle ce que c'est. Il parle de sa nécessité. Il montre les meilleurs moyens qui en facilitent l'exercice. Il en montre aussi les fruits dans l'action, parce que ça rayonne dans l'action. On peut se demander comment s'est formée en son âme cette conviction que l'apostolat ne trouve que dans la vie intérieure le secret puis la garantie de son efficacité. Mais il faudrait rappeler l'expérience douloureuse qui l'angoissait quand, comme abbé accablé de soucis par les soucis, il cherchait à s'élever au-dessus du monde. Et c'est là que l'on entrevoit le début d'une doctrine qui va aller en se précisant. Or, l'idée fondamentale qui montre que la base de l'action extérieure, c'est la vie intense d'union divine, d'union avec Dieu qui nous habite. Et ça, ça a rendu la paix à Don Chautard quand il avait des tas de problèmes. Ses relations avec de saints prêtres le confirment dans sa pensée. Ces prêtres séculiers, ces prêtres, comme on dit, ordinaires, qui sont les seuls fondés par Jésus-Christ, au fond, c'est la congrégation ou l'ordre fondé par Jésus-Christ. Soyons sérieux, là. Ces prêtres lui en donnent la preuve, ces saints prêtres, qui vivent dans des paroisses ou qui sont aumôniers, et très, très amis avec des hommes chez qui le zèle le plus pur, l'activité féconde, sont... se fondent chaque jour sur la contemplation, bien, il comprend mieux encore la constance de cette loi. Quelle est cette loi? C'est la fécondité véritable du labeur apostolique est liée à la sainteté de l'apôtre. Ça, il revient souvent là-dessus, je répète. C'est une phrase fondamentale. La fécondité véritable du labeur ou du travail apostolique, bien, c'est lié à la sainteté de l'apôtre. Et on le voit bien, hein? Regardez, les saints que l'on connaît le plus dans le monde actuellement, que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Jean Vanier ou Mère Thérèse, on répète toujours les mêmes noms, mais je ne vais pas en nommer d'autres. Je préfère être discret. Mais c'est leur sainteté qui rend leur labeur si fécond. Mais ils sont innombrables. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers sur la terre. Et dans ce contact intime avec d'éminents pionniers, comme le père Rabussier dont je pourrais vous parler, ou le père Planck, ou le chanoine Simon David, ou Don Gréa aussi, qui a fondé les chanoines réguliers de l'Immaculée Conception, et le père de Surmont, puis des gens de cette époque-là, dont les œuvres réussissent merveilleusement, eh bien, dont Chautard entrevoit plus lumineuse et plus précise la vérité fondamentale dont je viens de vous parler, que l'action extérieure est en fonction de la vie intérieure. Et plus exactement que l'action est le jaillissement même de la vie, si on veut. L'homme ou la femme qui communie chaque jour et qui se nourrit du pain vivant du Christ, le corps vivant ressuscité de Jésus-Christ reçu chaque jour, le nourrit. S'il le reçoit dans la foi profonde, qui va toujours en s'augmentant. Et donc là où la vie est plus riche, les fruits sont plus abondants, mais pour Don Chautard, la connaissance qu'il a de certaines âmes de prêtres, je répète, les âmes de prêtres qui sont très ardentes, d'accord, ça l'aide beaucoup. Mais ce sont des âmes qui sont occupées, parfois, seulement un zèle purement extérieur. Et là, il se rend compte que ces prêtres qu'il aime beaucoup, eh bien, ils ont peu de résultats, des résultats bien minces. Et il faut rendre inébranlable la conviction chez tous ces prêtres qu'il n'y a pas d'apostolat fructueux sans une vie intérieure très, très profonde. Et aujourd'hui, les questions, en cette fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, les grands archanges, et les questions de Don Chotard, qui est presque un archange dans un sens, parce que c'est un trappiste admirable, qui a eu un rayonnement fantastique. Il était convaincu que les prêtres qu'il aimait par-dessus tout, et ses moines, avaient besoin d'une vie intérieure profonde s'ils voulaient être féconds. Et cette conviction s'est fortifiée de façon toute particulière chez Don Chotard durant les années de persécution religieuse qui ont marqué en France les débuts du XXe siècle. Dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure. C'est cette persécution, la loi Combes en France, qui chassait tous les ordres religieux, toutes les congrégations et toutes les sœurs, sauf, je crois, les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul à cause de leur immense cornette blanche et leur costume bleu qui faisaient partie du paysage et qui étaient si nombreuses, je crois qu'elles étaient presque 60 000 ou peut-être que j'exagère, 30 000, j'ignore. Et en 1903, donc, elles n'ont pas été chassées, elles. Mais il faut dire qu'elles étaient près des plus pauvres, et les pauvres se seraient révoltés, et de toute façon, les incroyants les admiraient. Et alors, dans le désarroi, où les gens se sont trouvés à la vue des scènes absolument lamentables de ces expulsions dont je viens de vous parler, ben, beaucoup de prêtres, soucieux d'aller aux besoins les plus pressants, se sont lancés dans la création de toutes sortes d'œuvres nouvelles. Et ces prêtres courageux ont laissé de côté l'enseignement de la doctrine. Ils négligent leur sanctification personnelle, ils sont trop occupés. Ils se donnent tout entier à l'action. Ils pensent, malheureusement, ramener les âmes à la foi par les seuls moyens extérieurs. Or, que dit donc Chotard à ce sujet? Ces prêtres, travaillant plus en étendue qu'en profondeur, oubliaient que le récent succès des persécuteurs était dû en grande partie au manque de caractère et à l'absence de conviction chez les catholiques. Je répète. Le récent succès des persécuteurs, nos persécuteurs, comment ça se fait qu'ils réussissent à vider nos églises? Comment ça se fait qu'ils réussissent à empêcher les vocations? Comment ça se fait que l'Église disparaît petit à petit, on dirait? Bien, c'est que, comme dit Don Chotard, leur succès est dû en grande partie au manque de caractère et à l'absence de conviction chez les catholiques. Don Chotard, alors, caractérise d'un mot cette méthode d'action. Il l'appelle l'apostolat de castagnette. On fait de la danse de castagnette spirituellement, en fait. On s'imagine qu'on va aller chercher les âmes en ne leur parlant presque jamais de Jésus-Christ et de l'amour dévorant de son cœur. On ne parlera jamais de l'amour de Dieu le Père, cet amour dévorant, unis à celui de son Fils, ils sont un seul Dieu, et c'est le même amour jaillissant des deux personnes qui ne sont qu'un seul Dieu, qui est l'amour, l'Esprit Saint, qui envahit l'Église. Les gens n'entendent parler jamais de cet amour si dévorant qu'ils ne sauraient y répondre que par la sainteté, par le désir de plaire constamment ce Dieu trine. Et c'est pour mettre en garde contre le danger de ce que l'on a appelé l'hérésie des œuvres, l'hérésie de l'action, quoi, qu'il publie en 1907 une brochure qui va être la première ébauche du livre si connu, L'âme de tout apostolat. Et la brochure paraît sous le titre « Apostolat des catéchismes et vie intérieure ». Thèse et exemple par un abbé de l'ordre de Cîteaux. Or, l'auteur, après avoir rappelé que les œuvres sont voulues par Dieu, affirme hautement que quoi? Que la première des œuvres, la plus nécessaire, comme la plus fructueuse, c'est l'enseignement du catéchisme. Est-ce que je devrais répéter ça? C'est l'œuvre la plus importante, l'enseignement du catéchisme. Nos enfants ne savent plus rien. Nos jeunes gens ne savent plus rien. On n'a pas enseigné le catéchisme. Oh, vous direz que je suis naïf. Ça ne me gêne pas. Je crois qu'il faut apprendre des questions puis des réponses. Mais les vraies questions puis les vraies réponses, il y aurait des réformes à faire dans ce sens-là. Elles ont été grandement faites dans le nouveau catéchisme, mais il est trop gros. Il faudrait des petits. Il montre ensuite comment les fruits de l'enseignement du catéchisme sont décuplés par la vie intérieure de celui qui se livre à cet apostolat de l'enseignement du catéchisme. Et enfin, il met en relief chacune des parties de sa thèse. Il décrit les résultats merveilleux obtenus par les religieux de la Sainte Famille du Sacré-Cœur grâce à l'enseignement du catéchisme et à la vie intérieure profonde et riche que leur fondateur, le fameux père Rabussier, a su instaurer dans leur âme. Cette brochure a d'ailleurs été composée en reconnaissance d'un grand bienfait rendu à l'abbaye de Ceffonds par la congrégation de la Sainte Famille. Alors, dans les appréciations qui, même si l'auteur donne pas son nom, c'est écrit par un abbé de l'ordre de Cîteaux, ben, il y a des appréciations qui lui sont parvenues, parce qu'on devine que c'est lui, ça se dit, elles sont nombreuses et élogieuses. Alors, Dom Chautard, abbé de Ceffonds, remarque qu'on le félicite surtout d'avoir rappelé la primauté de la vie intérieure. Et là, c'est pour lui un trait de lumière. Puis il reprend sa thèse, il la généralise, il fait paraître en 1909 une petite brochure intitulée, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Vie intérieure, base de tout apostolat ». Et cette brochure de très petit format n'est finalement qu'un extrait de l'ouvrage précédent. Alors là, il écarte tout ce qui a trait à l'enseignement du catéchisme, puis à la congrégation de la Sainte Famille. Et là, Dom Chautard n'énonce que les principes. Et pour beaucoup de gens, ces quelques pages sont une révélation. Qu'est-ce que c'est? Ça bouleverse même les évêques. Il y a des évêques éminents tels que le cardinal Mercier, je vous ai déjà fait une émission sur lui, le cardinal Vives, il décide l'auteur à marcher sans crainte dans la voie où il s'est engagé. Et là, en 1910, tout en permettant la réédition de son premier ouvrage, Apostolat des catéchismes et vie intérieure, il travaille à refondre et à développer le second et ce nouvel ouvrage, presque entièrement transformé, enrichi d'aperçus nouveaux, reparaît sous un titre modifié, plus significatif. C'est là que naît l'âme de tout apostolat. Et le succès dépasse toutes les prévisions. En quelques mois, l'édition est épuisée. Comme je l'ai dit, les rééditions se succèdent avec rapidité. L'ouvrage n'a pas vraiment de valeur littéraire, je vous le répète. C'est l'accent de conviction. C'est la flamme d'un cœur de prêtre qui parle à ses frères dans le sacerdoce. Le sacerdoce qu'il respecte au plus haut point. Et tout ça fait le grand succès de l'âme de tout apostolat. Parce que l'âme de tout apostolat, ça répond aux besoins exacts du moment. Les remaniements successifs auxquels Dom Chautard va le soumettre feront de ce petit volume un véritable chef-d'œuvre, souvent admiré, goûté, surtout médité. Il est réédité depuis 2 ans aux éditions Clovis en France. On peut le commander en librairie, mais ça peut prendre 1 mois ou 2 avant d'avoir l'exemplaire, parce qu'il n'y a pas de distributeur au Québec des éditions Clovis. La 4e édition, puis les 3 suivantes de l'âme de tout apostolat paraissent au cours de la guerre 14-18. Et là, les prêtres la lisent et la méditent jusque dans les tranchées où ils se battent pour défendre la France. Et très vite, Dom Chautard se rend compte que la situation créée aux prêtres, qui sont mobilisés par une guerre prolongée, m'a causé chez plusieurs d'entre eux, surtout à l'arrière, un fléchissement de leur idéal. Alors c'est pour ça, comme je vous ai dit, pour corriger ce danger, qu'il prend l'initiative là, de proposer aux évêques, puis en particulier au cardinal Sévin, le primat des Gaules, comme on dit, archevêque de Lyon, la création d'une revue de vie intérieure. Une revue de vie intérieure, pas une revue de toutes sortes de choses, non, de vie intérieure. C'est ça, l'essentiel, c'est la vie intérieure. À partir de là, on ira partout, on fera toutes sortes de choses. Alors, elle paraît sous le titre, comme j'ai dit, de prêtre aux armées. Et ça va devenir, après la guerre, prêtre et apôtre, la fameuse revue prêtre et apôtre. Dom Chautard y collabore à chaque numéro. Chaque mois, là, il signe frère aîné. Et il adresse au prêtre une lettre riche. Elle est pleine de doctrine, sa lettre mensuelle. Elle est affectueuse aussi. Puis le ton. Ah, le ton est prenant. Et beaucoup des prêtres doivent à ces pages la sauvegarde de leur vocation, puis le maintien de leur idéal admirable. Et dans ces articles, dans ces causeries plutôt, dont Chautard se livre tout entier, avec sa jeunesse d'âme et son originalité, assez surprenante parfois, mais toujours de bon aloi. C'est toujours la même pensée élevée qui arrache à l'atmosphère moche et du front, là, et plus encore de l'arrière-front, les prêtres. Les prêtres qui sont résolus à vivre vraiment leur sacerdoce, ça les arrache au désespoir peut-être, ou du moins à un amoindrissement de leur ferveur. Et le style y revêt une allure plus conquérante et un caractère plus direct qui parle à ces prêtres courageux qui sont malheureusement soldats. Et ce sont des traits de feu, des cris auxquels les prêtres ne peuvent résister. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent donc à ces prêtres déracinés? Bien d'accord, ils compatissent à leur souffrance, c'est sûr, hein. Mais ce qu'ils voient avant tout en eux, ce sont des prêtres qu'il faut préserver de tout amoindrissement, dont il faut coûte que coûte assurer la montée. Un prêtre doit toujours être en montée pour nous entraîner, nous, les pauvres laïcs stupides, qui sommes pris dans toutes sortes de préoccupations nécessaires. Mais nous sommes pris dans toutes sortes de choses qui nous distraient. On a besoin de prêtres qui soient pleins de feu, et cette pensée le rend exigeant. Il leur rappelle la grandeur de leur vocation, l'impérieux devoir de se sanctifier dans ce milieu où la Providence les a placés. Les titres qu'il donne à ces articles sont grandement suggestifs, d'ailleurs. Certains sont tout un programme. Et là, la collaboration à la revue Prête aux armées a été, pour Don Chautard, l'occasion d'étudier davantage les besoins d'accroître la vie intérieure. Alors l'âme de tout apostolat bénéficie de cette expérience. Puis l'édition de 1917 s'en trouve enrichie de façon remarquable. Alors Prête aux armées, l'âme de tout apostolat, puis tous les écrits de Don Chautard ne sont finalement que le développement de sa doctrine sur la vie intérieure. Cette vie intérieure, bien, il la définit comme ceci. Écoutez bien. C'est l'attention, la vie intérieure, c'est quoi? C'est l'attention amoureuse et la coopération habituelle à l'action de Jésus vivant en nous par sa grâce. Plus tard, il va donner une autre formule très riche de sens. Il dit, c'est prendre conscience par une foi de plus en plus vive des immenses richesses que Dieu a déposées en nous par la grâce, par son habitation, la Trinité est en nous, hein, et les mettre en valeur pour nous identifier à Jésus crucifié et ressuscité. Les moyens qu'il met de l'avant pour l'accroissement de cette vie sont, écoutez bien, l'oraison, je vous l'ai dit tout à l'heure, puis je le répète, l'oraison, la vie liturgique et la garde du cœur. Mais qu'est-ce que c'est ça, la garde du cœur? L'oraison, je vais vous le dire tout à l'heure, l'oraison, dit-il, consiste à saisir Dieu pour le mettre dans sa journée. L'oraison est nécessaire, y renoncer, c'est consentir à l'atrophie de sa vie spirituelle. Il faut donc faire oraison coûte que coûte. Je vous ai fait une émission là-dessus il y a quelques jours, sur la prière, l'oraison. Si l'oraison est nécessaire, elle est donc toujours possible. C'est ce qu'il dit, lui. Il a bien raison. Le nier serait douter de la Providence. C'est l'échec qui, le plus souvent, nous fait déclarer l'oraison impossible. On dit qu'on n'a pas le temps. Or, c'est ce que dit et affirme Don Chautard, hein, que c'est très important. De cet insuccès dans l'oraison, Don Chautard indique les causes principales. D'abord, l'écran, le barrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien voilà, c'est... Ce barrage, c'est l'apathie. La tiédeur, oh, la dissipation, puis la gourmandise spirituelle. On veut lire, mais on prie pas. Ensuite, le manque de préparation. En somme, on n'entre pas en oraison. On ne se jette pas en présence de Dieu de façon à être en face d'un interlocuteur vivant, en fermant la télévision, fermant son livre, fermant la radio, fermant tout, et être avec Dieu un quart d'heure. Car Dieu est vivant, il est là. Puis l'absence de méthode, dit-il aussi. Alors, loin d'être formaliste, Don Chautard propose dans l'âme de tout apostolat une douzaine de méthodes, et cependant, il en développe une qui s'apparente à celle que préconisent les maîtres spirituels, mais qui, sous la plume de ce grand abbé trappiste, semble toute rajeunie. Voici en résumé ce que Don Chautard enseigne. l'entraîne raison par une adoration très profonde. Adorer longuement, non avec la tête, mais avec le cœur. Et c'est assurer le succès de l'oraison. L'âme mise en oraison, bien alors vient des actes suivants. Je vois la vérité révélée, c'est le langage de la foi, donc je crois. J'ai soif de cette vérité, c'est le langage de la charité affective, c'est j'aime. Je veux vivre cette vérité, je veux la vivre, alors c'est le langage de la charité effective, effective. Entrer dans l'action, j'aime vraiment et je veux faire quelque chose. Et puis je veux avec vous, c'est le langage de l'espérance, je t'aime et je suis sûr que tu vas me soutenir, ô mon Dieu. Dans l'oraison, répète Don Chautard très, très souvent. Il dit, il ne faut pas passer trop vite à l'examen, à s'examiner, là. Il faut lever longuement les yeux vers Dieu, vers ce qu'il est, lui, avant de penser à moi. Levez les yeux, bien, moi je dirais, levez les yeux vers l'intérieur, en regardant au tréfonds de notre être, la Trinité qui nous habite. À l'oraison, Don Chautard joint la vie liturgique, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça, la vie liturgique? Je dis ça pour les jeunes. La vie liturgique, ben, c'est l'Eucharistie, la messe. Il faut rentrer là-dedans, se mettre à lire les textes, à les écouter, à en vivre et à vivre le grand drame qui se déroule à partir du premier dimanche de l'Avent. Là, ça arrive à la fin de novembre, ça. Et ça se termine à la fin de novembre. On a une année, nous autres, une année, on la célèbre jamais, on dit jamais c'est le nouvel an. Les Juifs ont leur nouvel an, les Bouddhistes ont leur nouvel an, tout le monde a son nouvel an. Nous, on en a un, mais on n'en parle pas. On dit que c'est le 1er janvier. Ça n'a rien à voir, le 1er janvier. C'est le premier dimanche de l'Avent qui est notre nouvel an. Ça commence un samedi soir. On devrait célébrer ça. Comment ça se fait qu'on célèbre pas ça? C'est incroyable. Donc, à l'oraison, Don Chautard joint la vie liturgique. Il voit en elle ce qui nourrit l'oraison. Ça nourrit l'oraison. Pour faire l'oraison, vous pouvez prendre votre prion en église et lire l'évangile du jour, l'évangile de la liturgie du jour. Et puis, c'est le moyen de développer la vie intérieure. La liturgie, comme dit Pie X, c'est la source indispensable et première du véritable esprit chrétien. Alors l'année liturgique offre, c'est évident, un enseignement incomparable. Cette marche chaque année, à travers la vie du Christ, puis la Sainte Vierge des Saints, etc., mais surtout la vie du Christ, nous aide plus que tout à vivre avec lui et à reproduire dans notre vie la vie de Jésus. C'est elle, la liturgie, qui familiarise nos âmes avec les pensées et les sentiments de Jésus, et par les fêtes de Marie, les sentiments de sa mère. Ça nous stimule en même temps dans l'imitation de leurs vertus. Et pourtant, à elles seules, l'oraison et la vie liturgique ne suffisent pas à créer dans l'âme une vie intérieure complète. Il manque un troisième élément, j'y arrive, hein, qui assure le contrôle des mouvements de l'esprit et du cœur, qui instaure vraiment la maîtrise sur notre être tout entier. C'est la garde du cœur, que Don Chautard définit comme ça. C'est l'attention, écoutez bien, l'attention amoureuse à la présence de celui qui habite notre âme, Dieu. Puis la vigilance, cette vigilance-là, à écarter tout ce qui pourrait faire obstacle à la vie divine en nous. Je répète, c'est trop beau. La garde du cœur, c'est l'attention amoureuse à la présence de celui qui habite notre âme, Dieu. Et la vigilance à écarter tout ce qui pourrait faire obstacle à la vie divine en nous. Alors la garde du cœur, dit Don Chautard avec insistance, c'est la clé de voûte de la vie intérieure. La garde du cœur est aussi nécessaire au sommet que l'humilité à la base. Elle exige une grande énergie, mais sa pratique petit à petit, loin de m'empêcher de vivre une certaine liberté d'action, ça l'augmente au contraire. Ça rend la vie forte, sereine et ensoleillée, dit-il. Et si les articles de la revue Prête aux armées de la guerre 14-18 écrits dans des circonstances exceptionnelles, ça n'a pas été un grand nombre de lecteurs peut-être, ça n'a pas été évidemment la même chose, je vous le répète, pour l'âme de tout apostolat. Hein. Je vous rappelle ce petit livre. que le cardinal archevêque de Lyon appelait le livre en or. Ça s'est accru à partir de 1918. Ça s'est répandu partout. Ils ont eu quelques chapitres. Et il y a eu toutes ces traductions. À la mort de Don Chotard, il y avait déjà 8 traductions complètes. Puis on demeure étonné de voir avec quelle aisance ce petit livre a pénétré dans les milieux les plus divers, chez les prêtres, chez les religieux, les religieuses, les laïcs. Pizzi avait toujours sur sa table l'âme de tout apostolat. Plusieurs évêques le font distribuer à tous leurs clergés. Certaines congrégations religieuses le remettent à leurs membres le jour de leur profession, joint au livre des règles de leur ordre. Il y a des hommes, des femmes engagées, des personnes du monde, là, le lisent, le méditent. Les missionnaires se le disputent même parce qu'il manque d'exemplaires. Au Danemark, même un pasteur protestant dit à un prêtre catholique son admiration pour Don Chotard. À cette époque, c'était rare, ça. Et il trouve si belle la doctrine de l'âme de tout apostolat qu'il s'en inspire pour la préparation de ses prêches, comme on dit chez les protestants, chez sermons, quoi. Et je vous ai parlé de Clemenceau tout à l'heure. Eh bien, il a lu le livre. Et comment ne pas signaler la place exceptionnelle que ce livre a occupée même au Portugal pour toute l'action catholique. Le bien réalisé, surtout grâce à ce petit livre, est immense et la mort de Don Chotard, abbé de Ceffon, n'a pas arrêté l'expansion. Ça s'est répandu, jusque dans les années 70 et 80. Il s'est publié des versions différentes chez Résiac. Peut-être qu'on trouve encore la flamme de tout apostolat au lieu de l'âme de tout apostolat. C'est une édition écourtée en tout petit volume de 200 pages. C'est bien fait dans un langage nouveau avec, ils ont puisé dans Vatican II. Et je pense à ce témoignage d'un laïc qui dit, je ne l'ai jamais vu ce moine. Je n'ai jamais pu le remercier. Il n'aura pas su le trésor que son petit livre a été et reste pour moi. Quand j'ai appris sa mort, je lui ai dit merci, car alors je pouvais le faire sachant où le trouver. C'est parce qu'il croyait à la sainteté de Don Chotard et qu'on pouvait parler à Don Chotard. C'est un grand témoignage. Des millions de gens en ont profité, donc. On peut encore en profiter. Je vous le rappelle, il est publié depuis quelque temps aux éditions Clovis. En France, on peut le commander en librairie. Comment est-il mort? Eh bien, le dimanche précédent, 29 septembre, fête de Saint-Michel, Don Chotard doit donner l'habit de novice à un jeune routier. Et il y a 40 scouts qui sont réunis au chapitre pour assister à la cérémonie, puis le chanoine Cornette, aumônier général des routiers, des scouts, est présent lui aussi. Il est venu consulter l'abbé de Ceffon sur l'animation spirituelle des scouts dans les pays neufs. Et après prime, la communauté entre au chapitre le matin. Le père abbé tarde. On l'attend. Soudain, la porte s'ouvre. Est-ce lui? Non. Non. Des mots sont échangés à voix basse et le prieur, c'est l'assistance du père abbé, sort. Tout le monde est inquiet. Don Chotard est là, étendu sans connaissance, comme s'il avait été étendu pour faire ses vœux et mettre sa profession. Il avait traversé le cloître extérieur pour entrer par la porte du fond selon son habitude et au moment où il arrivait, la mort l'a terrassé. Et là, la joie éternelle était pour lui maintenant une réalité. Il avait dans la mort, comme je vous dis, l'attitude de la grande prostration du jour de sa profession. Reçois-moi, Seigneur, et je vivrai, c'est ce que les moines chantent trois fois.